Vous écoutez, on lit pour vous.
Intelligence artificielle et égalité des sexes. Un texte de la rédaction paru le 28 juin 2025 sur le site ONU Femmes. Le monde fait face à un défi majeur en matière d'égalité des sexes et l'intelligence artificielle, IA, reproduit les stéréotypes sexistes de notre société. Bien que de plus en plus de femmes dans le monde accèdent à Internet chaque année, seulement 20% d'entre elles sont connectées dans les pays à faible revenu. La fracture numérique entre les hommes et les femmes entraîne des lacunes en matière de données, ce qui transparaît dans les stéréotypes sexistes de l'IA. Le profil des personnes qui créent l'IA et les types de stéréotypes qui sont intégrés, ou non, dans les données de l'IA peuvent contribuer à perpétuer, aggraver ou réduire les inégalités entre les sexes. En quoi consistent les stéréotypes sexistes dans l'IA? Une étude du Berkeley Haas Center for Equity, Gender and Leadership a analysé 133 systèmes d'IA dans différents secteurs d'activité et a révélé qu'environ 44% d'entre eux présentaient des stéréotypes sexistes et 25% comportaient des stéréotypes à la fois sexistes et racistes. Beyza Doguk, une artiste d'Ankara en Turquie, a pu observer ces stéréotypes sexistes lorsqu'elle effectuait des recherches pour un roman et a demandé à l'IA générative d'écrire une histoire sur un médecin et un membre du personnel infirmier. L'IA générative crée de nouveaux contenus, textes, images, vidéos, etc., en s'inspirant de contenus et de données similaires sur lesquels elle a été formée, souvent en réponse à des questions ou à des instructions d'un utilisateur. L'IA a ainsi fait du médecin un homme et du membre du personnel infirmier une femme. Beyza Doguk a continué à lui donner d'autres instructions et l'IA a systématiquement attribué des rôles stéréotypés aux personnages et a associé certaines qualités et compétences à des personnages masculins ou féminins. Lorsqu'elle a interrogé l'IA sur les stéréotypes sexistes qu'elle véhiculait, l'IA a expliqué que cela était dû aux données sur lesquelles elle avait été entraînée et plus précisément à l'intégration des mots, c'est-à-dire la manière dont certains mots sont encodés dans l'apprentissage automatique pour rendre compte de leur signification et de leur association avec d'autres mots, méthode permettant aux machines d'apprendre et de travailler avec le langage humain. Si l'IA est entraînée sur des données qui associent les femmes et les hommes à des compétences ou des intérêts différents et spécifiques, elle générera un contenu reflétant ce stéréotype. Citation. L'intelligence artificielle reproduit les préjugés qui existent dans notre société et se manifeste dans les données d'entraînement de l'IA. Fin de citation, a estimé Beyza Doguk lors d'un entretien accordé récemment à ONU Femmes. Le profil des personnes qui développent l'IA et le type de données sur lesquelles elle est entraînée ont des implications en termes de genre pour les solutions basées sur l'IA. Sola Mahfouz, chercheuse en informatique quantique à l'Université de Tufts, se montre à la fois enthousiaste et préoccupée par l'IA. Citation. Est-elle équitable? Dans quelle mesure reproduit-elle les structures patriarcales de notre société et les préjugés propres à ses créateurs majoritairement masculins? Fin de citation, demande-t-elle. Madame Mahfouz est née en Afghanistan, où elle a été contrainte de quitter l'école lorsque les talibans sont venus menacer sa famille. Elle a finalement fui l'Afghanistan et émigré aux États-Unis en 2016 pour poursuivre ses études. Alors que les entreprises se démènent pour acquérir plus de données afin d'alimenter les systèmes d'IA, des chercheurs d'époque affirment que, d'ici à 2026, les entreprises technologiques pourraient être à court de données de haute qualité utilisées par l'IA. Natacha Sangwa est une étudiante rwandaise qui a participé au premier atelier de codage organisé dans le cadre de l'initiative African Girls Can Code l'année dernière. Citation. J'ai remarqué que l'IA est principalement développée par des hommes et entraînée sur des ensembles de données qui sont essentiellement basés sur des hommes. Fin de citation, a expliqué Natacha Sangwa, qui a pu constater directement les répercussions de cette situation sur l'expérience des femmes dans le domaine de la technologie. Citation. Lorsque les femmes utilisent certains systèmes alimentés par l'IA pour diagnostiquer des maladies, elles reçoivent souvent des réponses inexactes car l'IA ne connaît pas les symptômes qui peuvent apparaître différemment chez les femmes. Fin de citation. Si les tendances actuelles persistent, les technologies et les services alimentés par l'IA continueront de pâtir d'un manque de perspectives diversifiées en matière de genre et de race, et cet écart se traduira par une moindre qualité des services, des décisions biaisées en matière d'emploi, de crédit, de soins de santé, etc. Vous écoutez « Intelligence artificielle et égalité des sexes », un texte de la rédaction paru le 28 juin 2025 sur le site ONU Femmes. Comment éviter les stéréotypes sexistes dans l'IA? Pour éliminer les stéréotypes sexistes, il faut commencer par faire de l'égalité des sexes une priorité lors de la conception et de la construction des systèmes d'IA. Cela exige notamment d'évaluer les données pour vérifier qu'elles ne génèrent pas une représentation biaisée, de fournir des données reflétant de la diversité des genres et des races, et de remanier les équipes chargées de développer l'IA pour les rendre plus diversifiées et plus inclusives. Selon le rapport sur l'écart entre les sexes dans le monde de 2023, les femmes représentent seulement 30% des personnes qui travaillent actuellement dans le domaine de l'IA. Citation : Lorsque la technologie est développée en adoptant une seule perspective, c'est comme si l'on regardait le monde en étant à moitié aveugle. Fin de citation, explique Madame Mahfouz. Elle travaille actuellement sur un projet visant à créer une plateforme alimentée par l'IA qui permettrait aux femmes afghanes d'entrer en contact les unes avec les autres. Citation : Il faut davantage de chercheuses sur le terrain. Les expériences uniques vécues par les femmes peuvent en effet profondément orienter les fondements théoriques de la technologie. Elles peuvent également ouvrir la voie à de nouvelles applications technologiques. Fin de citation, a-t-elle ajouté. Citation : Pour prévenir les préjugés sexistes dans l'IA, nous devons d'abord nous attaquer aux préjugés sexistes dans notre société. Fin de citation, a déclaré la chercheuse turque Beyza Doguk. Il est essentiel de faire appel à différents domaines d'expertise lors du développement de l'IA, y compris l'expertise en matière de genre, afin que les systèmes d'apprentissage automatique puissent mieux nous servir et soutenir la volonté d'un monde plus égalitaire et plus durable. Dans un secteur de l'IA en constante progression, l'absence de perspectives, de données et de prises de décision tenant compte de l'égalité des sexes risque de perpétuer de profondes inégalités pour les années à venir. Le domaine de l'IA a besoin de plus de femmes, ce qui implique de faciliter et de renforcer le leadership des filles et des femmes et leur accès à l'enseignement et aux carrières dans les STEM, STIM et les TIC, TIC. D'après le Forum économique mondial, les femmes ne représentaient que 29% de l'ensemble des professionnels dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, STEM, en 2023. Bien que les femmes soient plus nombreuses que jamais à obtenir un diplôme et à occuper un emploi dans ce domaine, elles sont généralement cantonnées à des emplois de niveau débutant et sont moins susceptibles d'occuper des postes de direction. Comment la gouvernance de l'IA peut-elle contribuer à accélérer les progrès vers l'égalité des sexes? Les initiatives de coopération internationale en matière de technologie numérique se sont concentrées sur les questions techniques et infrastructurelles, ainsi que sur l'économie numérique, souvent en négligeant l'impact social des technologies et les perturbations qu'elles génèrent à tous les niveaux, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et historiquement exclues. Il existe un déficit de gouvernance mondiale pour relever les défis et les risques de l'IA et pour exploiter son potentiel afin de ne laisser personne de côté. Citation : À l'heure actuelle, aucun mécanisme n'a été établi pour empêcher les développeurs de mettre sur le marché des systèmes d'IA avant qu'ils ne soient prêts et sûrs. Il faut mettre en place un modèle mondial de gouvernance multipartite afin de prévenir et de remédier aux situations dans lesquelles les systèmes d'IA reproduisent des préjugés sexistes ou racistes, renforcent des stéréotypes nuisibles ou ne respectent pas les normes de confidentialité et de sécurité. Fin de citation, déclare Hélène Molinier, conseillère pour la coopération en matière d'égalité entre les sexes dans le numérique auprès d'ONU Femmes, dans un entretien accordé récemment à The Vex. Dans l'architecture actuelle de l'IA, les avantages et les risques ne sont pas équitablement répartis, le pouvoir étant concentré entre les mains de quelques entreprises, États et individus qui contrôlent les talents, les données et les ressources informatiques. Il n'existe pas non plus de mécanisme pour prendre en compte des considérations plus générales, comme les nouvelles formes de vulnérabilité sociale générées par l'IA, la perturbation des industries et des marchés du travail, la propension des technologies émergentes à être utilisées comme outils d'oppression, la durabilité de la chaîne d'approvisionnement de l'IA ou l'impact de l'IA sur les générations futures. En 2024, la négociation du Pacte mondial pour le numérique, PMN, offre l'occasion unique de créer une dynamique politique et de placer les perspectives d'égalité des sexes sur la technologie numérique au cœur d'un nouveau cadre de gouvernance numérique. Sans cela, le risque est de superposer l'IA aux inégalités existant déjà entre les sexes, ce qui aura pour effet de maintenir les discriminations et les préjudices fondés sur le genre, voire de les amplifier et de les perpétuer par le biais des systèmes d'IA. Le document d'orientation d'ONU Femmes sur le PMN formule des recommandations concrètes pour exploiter la vitesse, l'échelle et l'ampleur de la transformation numérique afin d'autonomiser les femmes et les filles dans toute leur diversité et pour engager des transformations qui placeraient les pays sur la voie d'un avenir numérique équitable pour tous. C'était « Intelligence artificielle et égalité des sexes », un texte de la rédaction paru le 28 juin 2025 sur le site ONU Femmes.
Révision des zones de rusticité des plantes au Canada, un texte d'Alexis Riopel paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir. Avis aux jardiniers. Les zones de rusticité des plantes au Canada viennent d'être mises à jour pour représenter la période 1991-2020. Au Québec, la plupart des régions voient leur cote rehaussée d'une demi-zone par rapport à la période antérieure 1961-1990, un témoignage du réchauffement climatique. Les changements sont assez systématiques et raisonnablement importants. Cela dit, les jardiniers qui souhaitent planter de nouvelles plantes adaptées au climat chaud seront certainement un peu déçus, fait remarquer John Pedler, chercheur scientifique au Centre de foresterie des Grands Lacs, Ressources naturelles Canada et responsable de la révision des cartes. Ainsi, Montréal se situe depuis quelques années dans la zone 6A. Cela signifie qu'un arbuste comme le magnolia peut y pousser, bien qu'il se trouve à la limite nord de sa zone de rusticité. Durant la période 1961-1990, la côte de Montréal était une demi-zone inférieure à 5B. D'autres régions du Québec ont connu des hausses plus marquées. C'est le cas de certaines localités du Témiscamingue, passées de 2B à 4A en l'espace de 30 ans. Cela semble causé surtout par l'allongement de la période de croissance, dit M. Pedler. La culture du poirier commun, par exemple, y devient possible. Impliqué au jardin de Métis depuis les années 1970, Jean-Yves Roy constate que des plantes qui n'auraient pas survécu autrefois peuvent maintenant être cultivées. Assurément, les arbustes des climats plus chauds se comportent mieux qu'avant, dit celui qui est aujourd'hui directeur horticole de l'institution située en zone 4A. 7 facteurs sont utilisés par les scientifiques du gouvernement fédéral pour déterminer les indices de rusticité, dont les températures, les précipitations, la durée de la période sans gel et la force du vent. Ces variables sont incorporées dans une échelle allant de 0 à 9. Les suffixes A et B désignent les demi-zones. Dans les années 1960, des scientifiques d'Agriculture Canada ont mis en place des essais de jardinage sur 108 sites à travers le pays, où ils ont évalué la survie de 174 espèces de plantes. Ils ont ensuite élaboré un modèle statistique qui établit un lien entre la capacité de survie des plantes et les variables climatiques, raconte Dan McKinney, scientifique senior au Centre de foresterie des Grands Lacs. La mise à jour que viennent de publier messieurs Pedlar et McKinney repose sur la nouvelle climatologie. La robustesse d'une espèce de plante envers la météo, elle, demeure la même d'une décennie à l'autre. Réchauffement du climat. De manière générale, les changements climatiques aident les plantes méridionales à grimper vers le nord. Toutefois, certains aspects du bouleversement du climat nuisent aussi à l'adaptation des végétaux aux latitudes supérieures. Au jardin de Métis, par exemple, on craint les hivers doux, qui, avec leur couvert neigeux plus mince, mordent parfois méchamment les plantes endormies. Il y a 2 ans, la neige est arrivée tardivement. De telles situations pourraient nous nuire à nouveau à l'avenir, explique M. Roy. Dans les potagers, le réchauffement climatique offre de nouvelles possibilités, mais défavorise aussi certains légumes nordiques, comme les navets, les choux, les laitues et les épinards. Ces légumes rustiques des zones 2 et 3 peuvent désormais avoir de la difficulté quand il fait très chaud en été, avertit M. Roy. À long terme, M. McKinney croit que des cartes propres à chaque espèce de plante vont prendre le dessus sur les zones de rusticité qui ont une vocation plus généraliste. Sur le site Web de Ressources naturelles Canada, des centaines de cartes sont déjà disponibles. Les cartes d'habitat climatique personnalisées pour chaque espèce ouvrent de nombreuses portes pour nous aider à comprendre ce que l'avenir nous réserve et pour réfléchir aux questions d'adaptation. Les zones de rusticité ne sont qu'une pièce de ce grand casse-tête, conclut-il. C'était « Révision des zones de rusticité des plantes au Canada », un texte d'Alexis Riopel paru le 23 juillet 2025 dans Le Devoir.
Sur roulette, sans étiquette. Un texte d'Éric Martel, paru le 10 août 2025 dans La Presse. Un casque, 2 patins, un surnom coloré, des amitiés fondées sur la diversité. Rassemblés, ces éléments bien simples ont suffi à plusieurs joueuses de roller derby pour assumer ouvertement leur identité sexuelle. Lorsqu'elle raconte son arrivée à Montréal en 2021, Montana Fowler a le sourire aux lèvres. Pourtant, la Californienne a traversé des difficultés avant de s'adapter. La barrière de la langue, l'hiver, mais surtout le fardeau de porter une identité qui, au fond, n'était pas la sienne. C'est le roller derby qui m'a permis de traverser tout cela. Je suis arrivée ici straight et ce sport m'a permis de sortir du placard, raconte-t-elle, attablée au centre d'entraînement de Montréal Roller Derby, MTLRD, situé au Taz. Avant de se joindre au club montréalais, Montana Fowler, que l'on surnomme Sprout dans le milieu du roller derby, n'avait jamais côtoyé de couple s'identifiant à la communauté queer. L'occasion d'en fréquenter lui a permis de voir plus clair quant à sa propre identité. De voir des gens queer si confortables avec leur personne, si accueillants, ça m'a beaucoup aidé, estime Sprout, alors que ses coéquipières participent à un exercice d'échauffement derrière elle. Peu importe ta morphologie ou qui tu es, on travaille tous vers un objectif commun ici. On permet à tous d'être soi, et je pense que c'est ce qui nous aide à nous assumer, affirme Montana Fowler, alias Sprout. Près de 2 ans après son arrivée dans la métropole, Sprout est sortie du placard. Dès son annonce, elle a senti le soutien inconditionnel de son entourage du roller derby. Ça veut tout dire pour moi. Je sens que mes coéquipières ici sont mon système de soutien, lance-t-elle en les regardant à l'œuvre. Modèle. Lorsqu'elle a donné ses premiers coups de patin au MTLRD, Diane, en scooter, la vie, n'était sortie du placard que depuis quelques mois. Je m'étais dit que de commencer ce sport serait une bonne manière de rencontrer des gens de ma communauté. Je savais que les joueuses avaient une grande ouverture d'esprit. Je n'ai pas été déçue, explique celle que l'on surnomme Moon Warrior. Ce n'est pas qu'à Montréal que le roller derby se distingue par son caractère inclusif. Si le sport a été créé dans les années 1930, il a connu une recrudescence aux États-Unis au début des années 2000, porté par un mouvement féministe punk. Au cœur même du sport se tient son slogan non officiel « Pour les patineuses, par les patineuses ». Oubliez la hiérarchie. Les ligues n'ont pas de dirigeants, pas de figure d'autorité. Les entraîneuses s'apprennent le sport entre elles selon leur niveau d'expérience. Cette façon de faire mène les joueuses à tisser des liens forts, à se raconter leur histoire, à s'inspirer finalement. Je trouve ça toujours inspirant d'entendre le parcours des autres joueuses, dit Diane en scooter. Ça m'a beaucoup aidée. C'est la même chose sur la traque. Il y aura toujours une oreille attentive pour toi qui t'offrira des conseils. Il y a cette espèce de roue qui tourne et qui est vraiment organique. Sans que ce soit explicite, tu trouveras des mentors facilement ici, ajoute sa collègue Marie-Pierre Baudet-Guillemette, alias Hurry Jane. Avant de se lancer dans l'univers du roller derby, il y a près de 15 ans, Hurry Jane avait déjà pratiqué quelques sports d'équipe. Plusieurs joueuses n'ont pas eu ce luxe avant de faire leur entrée au MTLRD. Même si certaines n'ont pas le profil physique de l'athlète typique, toutes sont les bienvenues et même accueillies à bras ouverts. La diversité corporelle règne. Peu importe ta taille ou ta physionomie, tu auras des avantages et des inconvénients au roller derby. Et si tu es vraiment petit, comme moi, ton centre de gravité sera bas. Si tu es grande, tu verras mieux le jeu. Bref, il y a de la place pour tout le monde, assure Hurry Jane. Dans son cas, le sport lui aura permis d'embrasser sa morphologie et même sa féminité. Quand tu es socialisée comme une femme, selon Marie-Pierre Baudet-Guillemette, alias Hurry Jane, tu as l'impression de devoir rester tranquille, à ta place. Avec le roller derby, on apprend à prendre sa place. La réputation du roller derby est belle et bien fondée. Il s'agit d'un sport physique, voire violent. Pour y jouer, les participants doivent payer une assurance supplémentaire, comme il s'agit d'un sport extrême. Les gens me demandent souvent de faire attention aux blessures. Je leur réponds toujours que je ne peux rien promettre, lance Hurry Jane en riant. Lors d'un exercice, on peut voir de nombreuses joueuses plaquées au sol. Le dénominateur commun de ces chutes, toutefois, est que ces joueuses reçoivent rapidement de l'aide pour se relever. Le franc-jeu, c'est le cœur de notre sport. Personne ne hue les arbitres ou ne critique les autres équipes. C'est vraiment une compétitivité qui est saine, inclusive. Détaille Hurry Jane. Au fait, pourquoi ces surnoms? Pourquoi les joueuses ne s'appellent-elles pas tout simplement par leur nom? Parce que le roller derby, c'est l'occasion de délaisser son rôle traditionnel. Ici, ce n'est pas des mamans, des employés, des conjointes qui performent. Ce sont des athlètes à part entière. Nos surnoms nous aident à nous façonner un personnage, comme si on incarnait une autre personne. Pour nous, c'est vraiment important, explique Moon Warrior. Comme quoi, peu importe votre apparence, votre orientation sexuelle ou votre identité de genre, vous pouvez être qui vous voulez au Roller Derby. Roller Derby 101. Le roller derby se dispute sur une piste ovale où deux équipes s'affrontent en patins à roulettes. Chaque équipe aligne 5 joueuses à la fois, 4 bloqueuses et une jammeuse. Cette dernière marque des points en dépassant les membres de l'équipe adverse. Les périodes sont appelées les jams. L'une des 4 bloqueuses a une bande verticale sur son casque. Elle est appelée pivot. La jammeuse peut passer son étoile à la pivot, qui prend alors le rôle de jammeuse. La jammeuse d'origine devient alors bloqueuse. Une joueuse peut frapper une adversaire pour la faire sortir de piste. Celle qui a été projetée à l'extérieur doit retourner sur la piste derrière la joueuse qui l'a heurtée. Si une joueuse commet une faute, elle doit immédiatement aller dans la boîte de pénalité pour 30 secondes. C'était « Sur roulette, sans étiquette », un texte d'Éric Martel paru le 10 août 2025 dans La Presse.